Bonjour à toutes et à tous, au menu du MAG aujourd'hui. Alors, comme tous les vendredis et cette semaine, Emeline a invité une professionnelle de la communication animale. Ça sera à découvrir après un entretien avec Yves Gantou, auteur du livre « À la recherche de l'identité de l'Aveyron », un livre qui vient tout juste de paraître. Mais d'abord, avant « À la recherche de l'identité de l'Aveyron », musique, Voyou et le titre « Carnaval » sur CFM Rodez.
Quelle joie l'emporte, ce diable un sourire accroché, qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté. Tôt ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores. Regardez-le, sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille, et les œuvres qu'il dévale se transforment en carnaval. Celui de son enfance, au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des hordes de confetti en désordre, qu'il enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle avec eux. Hier encore, on l'entendait dans tous les ports, clamer dans l'amertume sa soif de solitude. Qui l'aurait cru à faire danser des inconnus, les yeux loin dans le vague et le cœur qui s'emballe. Regardez-le, sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille, et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval. Celui de son enfance, au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des hordes de confettis en désordre, qu'il enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle.
CFM Rodez, le MAG.
Bonjour Yves Gantou.
Bonjour.
Yves Gantou, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « À la recherche de l'identité de l'Aveyron », 250 pages, 20 euros, publié aux éditions Toute Latitude. Et si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, c'est une maison d'édition aveyronnaise. Monsieur oui. Gantou, « À la recherche de l'identité de l'Aveyron », première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous l'avez trouvé ou pas?
J'ai eu du mal, effectivement, tout le livre passe par la géologie, la géographie, l'histoire, la sociologie, l'ethnologie, pour essayer de savoir s'il y a une identité aveyronnaise, ou bien simplement une identité, on va dire, paysanne, rurale, comme la plupart des autres départements, en tout cas du Massif central. Voilà. Mais ça va plus loin que ça.
Déjà, pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre? C'est vous-même une question que vous vous posiez, de l'identité aveyronnaise?
Absolument. Bon, je connaissais un peu l'Aveyron, mais pas autant que maintenant, puisque j'ai sillonné, j'ai mis 3 ans pour écrire ce livre. J'ai sillonné l'Aveyron, j'ai lu, je crois, pratiquement tout ce qui a pu être écrit sur l'Aveyron, pour essayer de voir comment même les historiens de la fin du 18e, début du 19e, bien sûr ceux du 19e et du 20e, comment ils avaient imaginé cette question fondamentale, y a-t-il une identité aveyronnaise? Voilà, est-ce qu'elle est une identité plutôt montagnarde, rurale, paysanne? Est-ce qu'elle se différencie? Et je crois que j'ai trouvé, vers la fin du livre, quelle serait la bonne réponse, voilà.
Alors, quand on parle d'identité en France ces derniers mois, ces dernières années, le terme identité, il est presque autant polémique que philosophique ou de recherche. Vous, on en est là ou quand même pas?
Oui, non, mais effectivement, vous avez raison. Beaucoup de mes amis, au départ, me disaient, es-tu sûr qu'il faut utiliser, etc. Autrement dit, le mot identité est devenu un gros mot. Bon, on pense effectivement aux identitaires d'extrême droite, mais d'abord, il n'est pas du tout question de ça. Moi, je parle d'une identité rurale, paysanne, et puis tout simplement, quelquefois, un peu irrité par ses propos, je me permettais quand même de sortir les idées de notre grand historien Fernand Braudel, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « L'identité de la France ». Autrement dit, l'identité, bon, ben, c'est tout simplement essayer d'aller au plus profond de l'histoire d'un département, d'une région, d'un pays, pour savoir quelle est la représentation mentale qu'on peut se faire d'une entité géographique. Voilà.
Yves Gantoux, je précise que vous avez travaillé dans toute la France, vous avez été d'ailleurs dans les médias, un grand média, hein, France Télévisions, divers postes, mais vous avez pas mal visité le pays. La question de l'identité pour l'Aveyron, elle se pose plus que dans d'autres régions que vous avez parcourues dans votre vie.
Alors, écoutez, bien sûr que oui, bien sûr que oui, mais il y a une raison essentielle, parce que, il y a une identité normande, il y a une identité bretonne, il y a une identité alsacienne, c'est clair. Bon, mais là, on est au niveau d'un département, on n'est pas au niveau d'une région. Bon, il s'agit pas de l'identité de Midi-Pyrénées ou de l'Occitanie, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais tout simplement, en dehors de cette identité, bien sûr, qui repose sur une vie difficile, rurale, paysanne, catholique. Bon, il y a autre chose. Et en fait, c'est la thèse de mon livre, je ne sais pas si je vous le dis maintenant, mais la conclusion, c'est que même si on trouve des éléments qui réunissent, et tout simplement, l'identité aveyronnaise, c'est une construction des exilés de l'Aveyron. Ce sont en fait les associations des Aveyronnais, c'est ça la thèse du livre, qui se retrouvant, il y a à peu près 80 associations d'Aveyronnais. Hein, il y a 350 000 Aveyronnais à Paris, plus que dans l'Aveyron actuellement, et ce sont eux qui en fait ont reconstitué l'identité de l'Aveyron. Comme je le dis dans mon livre à un moment, le seul endroit où on danse la bourrée, où on parle l'occitan, encore aujourd'hui, eh bien, c'est au banquet des Aveyronnais ou dans les fêtes aveyronnaises. Et donc, ce sont eux qui, tout simplement déchirés, parce qu'ils avaient été obligés, même s'ils ont la plupart du temps très bien réussi dans les affaires, comme on dit, dans la limonade, à Paris notamment, et dans l'administration dans le sud de la France. En fait, ce sont eux qui, tout simplement, privés, exilés, eh bien, ont reconstitué une identité de l'Aveyron et qu'ils aiment communiquer à la limite dans un grand rituel à plusieurs reprises. Et on l'a encore bien vu lors du dernier marché de l'Aveyron à Paris le week-end dernier.
Ah oui, vous y étiez ?
Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, je signais les livres, puisqu'il y a également un endroit où les auteurs de l'Aveyron signent les livres, voilà.
Alors pour vous, votre thèse, c'est donc que ce sont les Aveyronnais exilés qui ont créé cette identité, mais ouais. Ils l'ont créé pourquoi ? Parce que l'Aveyron leur manquait, l'Aveyron était loin ?
Absolument. Eh oui, absolument. Ce sont des gens qui ont souffert. Vous savez qu'ils ont on a même créé à Pigoué, en Argentine. Ils sont partis à plus de 200. C'est quand même invraisemblable. Ces Aveyronnais très pauvres, qui étaient complètement, on va dire, désolés de quitter leur pays, très pauvres, eh bien, ils sont partis, non seulement à Pigoué en Argentine, certains ont également beaucoup bien réussi dans les affaires dans l'ouest des États-Unis, notamment dans la région de San Francisco. Beaucoup sont partis également déjà en Algérie, dans d'autres colonies. Et bien évidemment, comme tous les exilés, très attachés à leur terre, et puis avec le désespoir d'avoir quitté sa terre, bien ils y reviennent l'été, ils achètent des terrains, ils font construire des maisons, et ce sont eux, dans ces moments où ils se rencontrent, qui effectivement essayent de retrouver le réconfort bien dans la culture, dans l'identité de leur département.
Et alors, cette identité avéronaise qui pour vous existe, hein, elle se perd comme d'autres identités peuvent se perdre en fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, ou au contraire, elle est plus vivace que jamais, ou on est sur quelque chose de stable?
Eh bien, écoutez, je dirais, mais ça, c'est plutôt dans un deuxième livre, parce que je suis en train d'écrire un deuxième livre sur les ambitions de l'Aveyron, c'est tout à fait autre chose, mais là aussi, on trouve une nouvelle impulsion. L'Aveyron n'a plus rien à voir avec ce que c'était. On parle du miracle de l'agriculture, on parle d'une réussite exceptionnelle aussi dans l'industrie, on l'oublie, dans les services, dans tous les domaines. Mais cette identité, qu'est-ce que vous voulez, elle a tendance, avec les nouvelles générations, de disparaître. Qui parle occitan aujourd'hui? Bon, même s'il y a un bac occitan, même s'il y a une licence en occitan, bon, ça fait peu de choses par rapport à ce qui se passait au 9e siècle et au début du 20e siècle. Bon, et donc, l'identité de l'Aveyron, je dirais, elle est un peu en perdition, sauf au moment où les associations se réunissent et dansent la bourrée.
Parce que l'Aveyron, vous l'avez évoqué, l'Aveyron est vaste. L'Aveyron est aussi une création historique, hein, ça doit dater de la Révolution française, le département, il y a eu un avant. Hein. C'est des populations qui, entre le sud, l'ouest, le nord Aveyron, qui ne sont pas les mêmes, mais il y a une identité malgré tout.
Alors, vous avez tout à fait raison de poser ce problème. L'Aveyron est le 5e département français, bon, le 6e si on y met les pays des Dom-Tom, la Guyane est un peu plus grande, mais donc 5e département français, c'est un département en plus... Peu de gens le savent réellement. C'est un département qui est difficile d'accès. Et même encore aujourd'hui, quand on arrive dans l'Aveyron par le nord ou par le sud ou par l'est, on se rend compte effectivement que l'Aveyron est un département montagneux. Bon, il y a 3 stations de ski dans l'Aubrac. Il y a un climat montagnard l'hiver dans ces zones-là. Donc c'est un département qui a été difficile d'accès. Quand on travaille sur la préhistoire, on constate que même à ce moment-là, ça n'a pas empêché pour autant l'arrivée de peuples qui venaient la plupart du temps du bassin méditerranéen, puisque c'est l'origine en fait de l'humanité au moment du néolithique dans l'Aveyron. Donc les passages ont existé, mais c'était difficile. Un exemple le montre. Dans l'Aveyron, l'unicité dans le bâtiment, dans la construction et des maisons n'existe pas. Il n'y a pas la maison aveyronnaise. Entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, on a construit les maisons, l'habitat, les fermes, avec les matériaux locaux. On n'est pas, donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la maison alsacienne, dans la maison basque, etc. C'est la variété, en fait, qui l'emporte. Regardez un exemple également que je cite. Bon, au niveau de la presse, même si aujourd'hui, les trois éditions de journaux appartiennent au même groupe. Bon, il y a 3 journaux différents. Il y a Centre-Ouest, il y a la Dépêche du Midi, et puis il y a Midi Libre. Bon, à un moment, dans le Nord, les enfants portaient une blouse noire, dans le Sud, ils portaient une blouse bleue. Donc, dans ce livre, je mets en avant, pendant une bonne partie du livre, les différences, les variétés, tout simplement pour arriver après à ce qu'on peut trouver comme construction d'une identité commune.
Dans votre ouvrage, vous reprenez un certain nombre de bons clichés, peut-être pas adaptés, mais un certain nombre d'images de ce qu'on dit autour des Aveyronnais. C'est plutôt des choses positives, hein. Il est travailleur, il est courageux,
absolument,
quand il donne sa parole, c'est à la vie, à la mort, des choses plutôt positives. Ouais, dans l'identité aveyronnaise, il y a aussi des choses qui seraient plus moins positives?
Pas du tout. Le problème de l'Aveyron, c'est que isolé, c'est resté pendant très longtemps un pays pauvre. Mmh. Et ça, bon, quand on voit l'histoire, et même encore au 19e siècle, l'Aveyron est resté beaucoup plus longtemps que les autres départements français, un département rural et un pays pauvre. C'est ça la marque de l'Aveyron jusqu'au, on va dire, dans les années 1960. Le démarrage, il est très tardif. Et aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, alors, c'est pas dans ce livre-là que je le développe, c'est que c'est exceptionnel, c'est le développement économique, allez, on va dire, à partir des années 1970, je dirais, au XXIe siècle, la Gironde devient un département qui fait l'admiration par tout ce qui se passe de nouveau, d'innovant, et tout se développe.
Et cette discussion, éventuellement, autour de l'identité avéronaise des Aveyronnais, on pourra la poursuivre avec vous, hein, puisque vous êtes sur une grande tournée avéronnaise, hein, Yves Gantou. Ces jours-ci, ces prochaines semaines, vous allez parcourir le département en long, en large et en travers, avec des séances de dédicaces, et une notamment ce samedi. Hein, samedi
Aveyronnaise, oui.
Voilà, vous serez à la Maison du Livre, hein, dans le centre-ville de Rodez, de 10h à 12h30.
Oui.
Pour vous, l'Aveyron, si je devais vous demander en trois mots, voilà, en trois mots, l'Aveyron, qu'est-ce que vous me diriez?
Ben, je mettrais en avant la beauté de son paysage. Je pense que c'est un des départements français qui est le plus varié. Bon, il n'y a pas la mer.
Il manque la mer.
Il manque la mer pour être ayant une variété absolument phénoménale. Mais c'est exactement ça. L'Aveyron est un département magnifique qui offre un deuxième point. Il y a une richesse historique que peut-être pas assez souvent en avant. L'Aveyron du Moyen-Âge a laissé des traces. Alors c'est vrai, à l'époque, ça semblait être plutôt insalubre, pas très agréable à vivre, soit, on va dire, un peu sombre. Mais la beauté des villages de l'Aveyron est exceptionnelle. Alors ensuite, il y a, et personnellement, l'histoire de l'Aveyron me semble être assez exceptionnelle dans cette capacité qu'ont eu les hommes, après avoir passé des siècles vraiment, vraiment difficiles, de pouvoir enfin trouver la voie de la modernité.
Merci beaucoup Yves Gantou.
Mais écoutez, merci beaucoup, j'espère à très bientôt.
Et ben, à très bientôt, puisque vous écrivez, vous êtes déjà sur un second ouvrage.
Oui, je suis sur un deuxième livre qui, je pense, pourrait sortir l'année prochaine. Donc, il va traiter des ambitions de l'Aveyron. C'est tout un autre programme et c'est aussi palpitant.
Eh ben, ça sera l'occasion de vous retrouver avec grand plaisir. Merci Yves Gantou.
Très bien. Mais je vous remercie beaucoup.
CFM Rodez, le mag. Et la deuxième partie, le vendredi, c'est chat alors.
Bonjour, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin. J'ai fait d'une de mes passions mon métier. Je suis consultante de la relation homme-chat. Mon travail est basé sur l'environnement du chat et l'attitude des humains. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Marie Puech, qui travaille avec les animaux, mais avec une autre approche. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors Marie, dis-nous quelle est ta spécialité?
Moi, je communique avec les animaux. Je suis communicante animale, plus précisément.
D'accord, et ça consiste en quoi?
Alors, la communication animale, c'est une communication qui se fait d'âme à âme, en fait, avec un animal, du coup. Et on appelle ça aussi communication intuitive, puisqu'on se base sur, en fait, ça marche avec l'intuition, en fait. On échange des messages, des images avec l'animal. Et donc, c'est pour répondre, voilà, à des soucis que peuvent rencontrer les humains, par exemple, avec leurs animaux, leurs chats, leurs chiens, leurs chevaux, principalement. Problèmes de comportement, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être juste prévenir l'animal d'un changement de sa vie. Par exemple, un propriétaire qui veut déménager, c'est toujours bien d'en informer l'animal, ou l'arrivée d'une nouvelle personne dans le foyer, voilà. Ça peut avoir diverses utilisations.
Tu es intermédiaire entre l'homme et l'animal. Comment tu as appris à communiquer avec les animaux?
Alors en fait, moi j'ai découvert la communication animale il y a seulement 4 ans, où j'ai voulu tester sur mon cheval, et quand j'ai vu le résultat, j'ai été surprise en fait, étonnée, en bien. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment intriguée, puisque moi je suis quand même de formation cartésienne, j'ai fait le bac S, une école d'ingénieur, et donc moi j'aime comprendre tout ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu me former, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que la communication animale est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, n'importe qui peut communiquer avec les animaux. Il suffit en fait de travailler beaucoup sur soi pour pouvoir y arriver.
Peux-tu nous dire comment se passe une communication?
Alors, moi je fais essentiellement des communications à distance sur photo. Donc c'est un peu comme les guérisseurs pour ceux qui en ont déjà fait appel en fait. Il me suffit d'avoir une photo de l'animal, son nom et son âge. Et en fait, je rentre en communication, en gros c'est pas avec son être physique, mais c'est avec son âme. Pour ceux qui veulent un peu plus d'explications, c'est un peu comme à la radio en fait, c'est une histoire de fréquence. Les animaux vibrent sur une fréquence plus basse que nous. Nous, les humains, on est plus haut. Et donc en fait, il faut qu'on arrive, en travaillant sur soi, à descendre à la même fréquence que les animaux pour pouvoir recevoir leur message. Puisqu'effectivement, tout le monde peut parler verbalement avec son animal. L'animal va comprendre les émotions, va comprendre, même certains chiens ou chevaux, même les chats peuvent enregistrer des mots. mais on a souvent du mal à recevoir en échange les émotions et ce que l'animal a à nous expliquer ou à nous montrer. Et donc voilà, dans une séance en fait, donc je commence toujours par rentrer en contact avec l'animal. Ensuite, je lui demande déjà s'il est d'accord pour cette communication animale, puisqu'il y a des animaux qui sont pas prêts, qui n'ont pas envie au moment où je vais les voir. Donc voilà, il faut que j'ai l'accord de l'animal. Et ensuite, en fait, je pose tout un tas de questions. Je commence toujours par des questions de base, des questions simples, voir si voilà comment il se sent, est-ce que son environnement lui convient, est-ce que ses congénères lui voilà, ça, est-ce que ça se passe bien avec ses congénères, est-ce qu'il a un message à passer à ses humains. Voilà, je pose tout un tas de questions de base. Ensuite, je pose les questions que le propriétaire a envie de creuser en fait avec l'animal, qui peuvent être vraiment diverses. Et ensuite, ça peut arriver aussi que l'animal ait besoin de soins énergétiques ou de. Il y en a certains qui me demandent des fleurs de Bac pour eux, mais aussi pour leurs animaux, puisque aussi il peut y avoir des problématiques qui sont liées à lui-même plus qu'à l'animal en fait. Bon, voilà. Pour finir, je remercie toujours l'animal puisque c'est quand même du temps qu'il m'accorde, une séance.
Alors, tu travailles avec tous les animaux domestiques, peut-être aussi des animaux de ferme?
Depuis toujours, on peut communiquer avec tous les animaux. En fait, on peut communiquer avec différentes espèces. Alors moi, effectivement, aujourd'hui, je fais plus souvent chien, chat, chevaux, puisque c'est les animaux domestiques pour lesquels je m'appelle. Mais j'ai déjà aussi communiqué avec des tortues, des poules. J'ai aussi eu un troupeau de vaches à les rencontrer. On peut communiquer avec des essaims d'abeilles. Voilà, c'est vraiment très varié. Après, les messages vont être différents. Par exemple, un cheval et un chat va communiquer plus facilement. Ça dépend des animaux. Une poule, forcément, aura un petit peu moins de choses à dire, mais peut parler de ses conditions de vie, de ce qu'elle a envie, et voilà.
Tu as suivi une formation pour devenir professionnelle et t'installer en tant que professionnelle.
Oui. Aujourd'hui, il existe tout un tas de formations que l'on peut trouver, des formations en ligne. Il y a des gens qui se forment avec des livres, mais moi, j'ai choisi de faire des formations en présentiel. Donc, j'ai fait 6 jours de formation de stage, en fait, avec des formateurs professionnels pour pouvoir vraiment me former, puisqu'aujourd'hui, dans la communication animale, il faut faire attention à ce qu'on fait. De pas faire de mal en fait aux animaux, puisque ça peut être en fonction de ce qu'on dit ou de comment on agit, la communication peut être négative. Donc il faut faire attention quand vous faites appel à quelqu'un d'être sûr qu'elle soit la personne soit bien formée.
Je pense qu'on parle de toi, qu'il y a un beau bouche à oreille qui se passe autour de toi. Il y a aussi des imposteurs dans ce métier-là, donc il faut faire attention à qui on fait appel. Donc toi, tu as maintenant quelques années d'expérience et de bonnes références. Est-ce que tu peux nous parler d'une belle expérience que tu as eue?
Alors, c'est vrai que c'était dans mes toutes premières communications, puisqu'aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans et demi que je pratique la communication animale, que je suis formée, et ça fait 6 mois que je suis vraiment installée professionnelle. Je suis en auto-entreprise depuis le mois d'avril. Et c'était dans tous mes débuts, une dame qui m'appelle parce que son jeune cheval de 4 ans, en fait, était timide au fond d'un pré. C'était un mâle non castré, et elle comprenait pas pourquoi il s'intéressait pas aux juments, et pourquoi il restait tout le temps cloîtré au fond de son pré, et avec un air triste. Et donc ce cheval, je suis allée le voir du coup en communication animale, à distance toujours. Et en fait, je sentais un gros mal-être et il me parlait de la séparation avec sa mère, de son sevrage en fait, qui avait été très brutal. Où il s'était retrouvé du pré avec sa mère, au lendemain il s'est retrouvé dans un box, enfermé tout seul à 6 mois. Et c'est quelque chose qui l'avait vraiment choqué. Et en fait, dans la communication, il me disait qu'il n'avait pas eu le temps de dire au revoir à sa maman et il n'avait pas compris ce qui se passait en fait. Et de là où je lui ai expliqué la situation... Ça a permis à ce cheval en fait de se libérer et de vraiment grandir en fait intérieurement plus que extérieurement.
Tu prends des nouvelles du coup ensuite des animaux avec qui tu communiques, oui. Voir comment ça évolue.
Toujours. Alors j'essaye en fonction du timing que j'ai dans les 1 à 2 mois après la communication animale, je relance toujours les personnes pour voir si elles ont vu des évolutions, si elles ont toujours des questions, s'il y a quelque chose voilà. Et en général, les évolutions sont plus que positives, donc c'est ce qui m'encourage à continuer.
C'est bien. Est-ce que tu peux nous indiquer tes tarifs?
Alors, je pratique, il y a 3 séances en fait. Il y a une communication simple en fait pour juste prévenir d'un changement, donc un déménagement, l'arrivée d'un nouveau dans le foyer. Donc ça, c'est une communication qui a 30 euros. Ensuite, la communication, moi je vous parlais, où je fais le point sur le mode de vie de l'animal, sur les questions du propriétaire, c'est une communication qui a 45 euros. Et en plus, je propose avec de la communication complète, je propose un bilan énergétique où je fais le point sur la santé de l'animal. Je scanne tout le corps de l'animal. Je vérifie aussi s'il a des carences et en plus, je travaille aussi sur les chakras, le rééquilibrage des chakras. Et donc là, c'est une séance à 65 euros.
D'accord. Comment on peut te joindre ?
Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Les Secrets du Cœur Communication Animale. Ou sinon, vous pouvez aussi me contacter par mail sur contact@lessecretsducoeur.fr.
Tu es basée donc à Calmont, à côté de Rodez, mais tu interviens dans tous les pays francophones à distance.
C'est ça. Comme je pratique sur photo, donc c'est une communication qui se fait sur à distance. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai des gens qui sont sur Paris. J'ai eu même des personnes de Belgique. Voilà, du moment que la barrière de la langue pour le compte rendu est respectée, je peux faire voilà. Tous les pays francophones.
Je te remercie Marie, c'était passionnant de te recevoir ici. Peut-être une autre fois, on aura l'occasion de parler d'un autre sujet ensemble, ce sera avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Chat alors sur CFM Radio. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, comportementaliste félin 12, et sur mon site internet comportementalistefélin.com.
Merci Emeline, à la semaine prochaine. C'est la fin du MAG pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi, même heure, pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end sur CFM Rodez.